RJB Info.
Le journal Jérôme Beuchat.
Bonsoir. 5 nouveaux recours ont été déposés à la préfecture du Jura bernois concernant le vote communaliste de Moutier. Le total se monte désormais à 12. La date limite a maintenant été atteinte pour recourir sur le choix des prévôtois de rejoindre le canton du Jura. La sérotine boréale a la belle vie par chez nous. Cette chauve-souris est présente dans tout l'arc jurassien, alors que le nombre d'êtres vivants de cette espèce diminue. Un recensement a été organisé par le parc Chasseral et le parc du Doubs. Victoire slovène sur le Tour de France cycliste. Primož Roglič a enlevé la 17e étape qui arrivait à Serre-Chevalier après 183 km et 4 grands cols. Chris Froome a conservé son maillot jaune de leader du classement général. La fin de journée sera orageuse, surtout cette nuit. Demain, les températures baisseront légèrement avec 27 degrés attendus. Le soleil sera de la partie, mais il pourrait être caché par quelques orages dès le matin et au cours de l'après-midi. Les recours s'accumulent contre le vote communaliste de Moutier. 5 nouvelles lettres sont arrivées sur le bureau du préfet du Jura bernois ces derniers jours. Elles s'ajoutent aux 7 recours déjà existants. Le délai est maintenant échu pour recourir contre la volonté des prévôtois de rejoindre le canton du Jura. Les explications de Michel Léoni.
C'est terminé, il est désormais trop tard pour déposer un recours contre le vote communaliste de Moutier du 18 juin dernier. Le préfet aura du travail puisque 12 recours lui ont été envoyés au total, dont 5 nouveaux reçus ces derniers jours. Le 14 juillet, une personne a demandé l'annulation de la votation en déposant 2 recours. Dans le premier, elle fait valoir que certains protagonistes impliqués dans le scrutin n'auraient pas respecté les règles fixées dans la feuille de route établie par les gouvernements bernois et jurassiens, ainsi que par le conseil municipal de Moutier. Dans le second, cette personne soutient que c'est la majorité absolue des électeurs inscrits qui devrait être déterminante et que dans ce cas, cette majorité n'a pas été atteinte. 3 autres recours ont été déposés à la préfecture du Jura bernois le 17 juillet par une seule et même personne. Primo, elle met en doute la régularité du vote par correspondance. Deuxio, elle conteste la présentation des arguments en faveur du oui et du non dans les messages officiels des autorités. Enfin, cette personne fait valoir que le message officiel adressé au corps électoral par les autorités jurassiennes ne serait que des déclarations d'intention et non des garanties, ce qui a induit les prévôtois en erreur.
Et la question que tout le monde se pose, Michel, avec ces 12 recours, est-ce que le vote communaliste de Moutier pourrait être annulé ?
La réponse est oui, c'est le but des recours, mais il faut un cas bien précis. Le préfet du Jura bernois va maintenant examiner tous les recours et si une ou des irrégularités sont constatées par Jean-Philippe Marty, alors il faudra regarder quelles conséquences elles ont eues sur le résultat de la votation et si elles ont changé ce résultat. À titre d'exemple, si une irrégularité n'a touché que 10 électeurs, le recours n'aboutira pas puisqu'il y a eu 137 voix d'écart, donc ces 10 voix n'auraient pas pu changer la finalité du résultat. Le préfet espère traiter ces 12 recours le plus rapidement possible et surtout que tout soit fini avant son départ à la retraite le 30 novembre.
Les élus de l'arc jurassien sont à la traîne dans le classement des politiciens les plus influents. Si la conseillère aux États jurassiennes Anne Seydoux-Christ se démarque à la 26e place sur 240, les conseillers nationaux neuchâtelois Denis de la Russie et du Jura bernois Manfred Buller sont parmi les romans jugés les moins influents. Pas de quoi affoler ce dernier qui en profite pour nuancer l'intérêt de ce genre de classification. Manfred Buller.
Ce genre d'exercice de classement est un grand classique des médias. En l'occurrence, ici, on a affaire à un classement qui arrive toujours en été. On a l'impression peut-être qu'il s'agit d'un petit peu boucher les trous de l'été où il n'y a pas trop de grande actualité à se mettre sous la dent. Donc ça me laisse parfaitement froid.
Et pour beaucoup d'élus, comme le Neuchâtelois Raphaël Comte, ce sont les critères choisis qui posent problème, car ceux-ci ne permettraient pas de rendre compte du travail effectivement réalisé au Parlement. Raphaël Comte.
Si je prends un seul exemple, il y a un des critères qui est utilisé, c'est le nombre d'interventions. Eh bien, par exemple, au Conseil des États, on dépose très peu d'interventions. Ce n'est pas dans la culture du Conseil des États, c'est même souvent mal vu. Donc, par définition, vous perdez des places au classement si vous ne déposez pas des interventions. Je ne crois pas que ce soit dans l'intérêt des institutions de faire comme ça.
Si ces classements sont à prendre avec précaution, certaines tendances se dessinent tout de même. Les femmes ont ainsi toujours autant de mal à se faire une place en tête de liste. La sérotine boréale résiste plutôt bien dans l'arc jurassien. Cette espèce de chauve-souris présente sur les hauteurs de la région a fait pendant un mois l'objet d'une campagne de recensement. L'opération était organisée par le parc du Doubs et le parc Chasseral qui ont bénéficié de l'aide de 9 bénévoles et de 3 spécialistes. Même si l'effectif de la sérotine borale a diminué de moitié en 20 ans, 2 colonies reproductrices d'une trentaine de chauves-souris ont été découvertes à Seignelégier et au Breuleux. Des traces de l'animal ont aussi été identifiées dans les deux tiers des villages prospectés. Valérie Huldry du bureau Écoptère à La Chaux-de-Fonds encadrait l'opération et nous explique comment elle s'est déroulée sur le terrain.
Alors concrètement, on a fait une première pré-prospection dans les villages pour voir s'il y avait présence ou pas de cette espèce. Et puis après, on est revenu avec une équipe de bénévoles où on s'est réparti certains quartiers. Puis là, pendant une heure, à la tombée de la nuit, on a cherché des passages de chauves-souris avec à l'aide d'un détecteur d'ultrasons qui permet d'être plus efficace et de remonter le flux de chauves-souris qui pourrait passer. Et puis de remonter jusqu'au bâtiment d'où elles proviennent.
Et alors, où c'est qu'elles sont, par exemple, donc les deux colonies ou les gîtes? Où ça se trouve, où, en fait?
Essentiellement dans les bâtiments. Elles vont loger, en fait, dans les toitures. Et puis, elles se faufilent, en fait, généralement sous les tuiles faîtières. Il y a toujours un petit espace, en fait, où elles peuvent se glisser. Puis après, s'installer dans la toiture, juste sous les tuiles. Ça peut être des bâtiments de plusieurs étages, souvent des immeubles de 3 étages. À la tombée de la nuit, pendant une dizaine, quinzaine de minutes, elles vont sortir l'une après l'autre. Et puis, c'est ces secteurs, c'est ces endroits qu'il faut réussir à repérer, en fait.
Des propos recueillis par Alexandre Rosset, les propriétaires des bâtiments concernés par la présence de ces chauves-souris seront contactés prochainement pour assurer leur conservation. Et ça sera une première pour Félicien Donzé en Côte d'Ivoire. Le chanteur franc-montagnard et son groupe LIA prendront part pour la première fois de leur carrière aux Jeux de la Francophonie. Lors de la 8e édition de ces joutes, LIA sera l'unique représentant helvétique dans la catégorie chanson du 21 au 30 juillet prochain à Abidjan. Il y aura environ 20 autres concurrents en lice. Félicien Donzé se réjouit de se produire en Côte d'Ivoire sans trac ni crainte.
Non, aucune pression. Nous, on va présenter ma personnalité, mon univers avec mes chansons et après si ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est rare qu'on fasse de la compétition en tant que musicien. Là en l'occurrence c'est un événement compétitif, mais au-delà de ça je crois que c'est aussi une grande rencontre où beaucoup de pays d'Afrique, donc on va pas tourner autour de la Belgique, de la Suisse, de la France et du Québec, mais ça va toucher beaucoup plus loin et on se réjouit surtout de rencontrer ces gens et puis de pouvoir jouer un peu et pourquoi pas jouer avec ces gens aussi. Mais la compétition pour nous, c'est secondaire. Bien sûr qu'on serait content d'arriver en finale, mais c'est pas le premier objectif, je crois. Et l'objectif de la musique, c'est pas la compétition, mais c'est d'être diversifié un maximum et puis de partager.
La préservation de la biodiversité inquiète la Confédération. Elle a dressé un tableau alarmant de son état en Suisse. Près de la moitié des milieux naturels et plus d'un tiers des espèces animales et végétales sont menacées. C'est ce qu'indique cet après-midi l'Office fédéral de l'environnement. L'OFEV explique cette diminution par l'exploitation intensive des sols et des eaux, ainsi que par la pollution à l'azote. Les espèces invasives et les changements climatiques exercent aussi de nouvelles pressions. Les organismes et les paysages risquent à terme de s'uniformiser. L'Office fédéral de la culture a modifié sa pratique de soutien financier aux musées en Suisse. La nouvelle mouture est plus favorable aux institutions romandes. Les musées doivent désormais faire acte de candidature pour obtenir un morceau du gâteau financier. 35 l'ont fait en 2017, 13 ont été retenus. Les critères de sélection sont les suivants: avoir un rayonnement national, présenter des collections originales et proposer une médiation innovante destinée à un large public. Ce mercredi, l'Office fédéral de la culture a dévoilé la liste des heureux bénéficiaires de Berne, une correspondance signée Serge Jubin.
Jusqu'ici, 7 musées alémaniques se partageaient 4,7 millions par an. Dès 2019, 2 d'entre eux vont disparaître de la liste et 8 autres toucheront une subvention dont le total a été augmenté à 5,9 millions. Parmi eux, 4 se trouvent en Suisse romande. Le musée de l'Élysée à Lausanne, qui obtiendra jusqu'à 450 000 francs. Le musée Ariana de la céramique et du verre à Genève, 420 000 francs en 2020. Le musée d'archéologie Le Laténium à Haute-Rive dans le canton de Neuchâtel, 300 000 francs. Et le vitromusée de Romont dans le canton de Fribourg, 250 000 francs. Le musée des transports à Lucerne continuera de se tailler la part du lion avec 1,5 million par année. L'Office fédéral de la culture a-t-il tenu compte de l'équilibre régional dans ses choix? Benno Widmer, responsable de la section musée et collection à l'OFC.
La Confédération, comparée à la période précédente, a reçu 1,2 million de plus pour les subventions. Avec ces montants supplémentaires, nous arrivons à subventionner aussi des institutions supplémentaires. La répartition géographique en tant que telle n'a pas été un critère dans le concept de soutien. Pourtant, nous constatons avec plaisir que, vu l'ancienne pratique de l'Office fédéral de la culture, où on ne soutenait que des musées en Suisse alémanique, avec le choix basé sur les critères, maintenant on pourra soutenir aussi des institutions en Suisse romande et au Tessin.
Évidemment, la sélection fait des déçus. 22 candidatures n'ont pas été retenues. L'Office fédéral de la culture relativise. Ces musées ne touchaient déjà rien jusqu'ici.
Et on part en Russie où les terroristes perdront leur passeport. Les députés du pays ont adopté aujourd'hui une loi qui permet de déchoir de leur nationalité les citoyens naturalisés russes et reconnus coupables de terrorisme. Le texte doit encore être voté par les sénateurs avant d'être validé par Vladimir Poutine. Le président russe avait réclamé cette nouvelle loi suite à l'attentat qui avait fait 15 morts dans le métro de Saint-Pétersbourg en avril dernier. L'homme soupçonné d'être l'auteur de cette attaque était originaire du Kirghizistan mais avait obtenu la nationalité russe.
Vous êtes sur RJB, il est 18h11.
Sport.
Première victoire slovène au Tour de France. Primož Roglič s'est adjugé en solitaire la 17e étape, la première dans les Alpes. Le coureur de l'équipe Lotto Enel Jumbo s'est échappé dans le Galibier pour s'imposer à Serre Chevalier cet après-midi. Sur la route du Tour, le résumé de l'épreuve vous est compté par Jean-Marie Sarka.
183 km à parcourir aujourd'hui pour une étape mythique de ce Tour de France 2017. La Croix de Fer, le Télégraphe et le Galibier au programme du peloton. Et après 10 km de course, les attaques se multiplient. Une trentaine de coureurs s'échappent, dont le grimpeur suisse Mathias Franck. Alberto Contador profite d'une chute pour partir en compagnie de Nairo Quintana. Seul le pistolero réussit à rejoindre le groupe de tête où figurent déjà ses coéquipiers Jarlinson Pantano et Boke Mollema. À 85 km de l'arrivée, coup de tonnerre. Radio Tour annonce l'abandon de Marcel Kittel, quintuple vainqueur d'étape sur ce Tour de France. Le coureur allemand ne s'est pas remis d'une chute en début d'étape et c'est donc Michael Matthews qui récupère le maillot vert. Ils sont encore 24 à l'avant, au pied du Galibier, sous les yeux du président de la République Emmanuel Macron. Le groupe de tête explose dans la dernière ascension du jour. Boke Mollema accélère le tempo pour son leader Alberto Contador. L'Espagnol qui vit son dernier Tour de France cherche la victoire d'étape. Mais à 33 km de l'arrivée, c'est Primož Roglič qui part en solitaire. L'ancien sauteur à ski, désormais spécialiste du contre-la-montre, profite de la descente pour conserver son avance et s'offre la plus belle victoire de sa carrière. Le grand perdant du jour se nomme Fabio Aru qui sort du podium. Deuxième derrière Christopher Froome, Rigoberto Urán. Troisième, Romain Bardet.
Vous l'avez entendu, Christopher Froome a gardé son maillot jaune de leader du classement général de ce Tour de France. Le Britannique compte désormais 27 secondes d'avance sur le Colombien Rigoberto Urán et sur le Français Romain Bardet. L'Italien Fabio Aru pointe à 53 secondes. Demain, le peloton partira de Briançon pour rejoindre Izoard sur un trajet de presque 180 km. Nicole Buchler renonce au championnat de Suisse d'athlétisme. La perchiste biennoise ressent des douleurs à une hanche et à une cuisse. Elle préfère ne pas s'aligner à Zurich en fin de semaine. Nicole Buchler entend se préserver en vue des championnats du monde de Londres du 4 au 13 août. Et c'est la fin de l'aventure au FC Lucerne pour François Affolter. Le club de Super League de football a mis fin au contrat du défenseur biennois. Il l'indique aujourd'hui sur son site internet. Le joueur de 26 ans ne faisait plus partie des plan de l'entraîneur Marcus Babel. François Affolter a été écarté du groupe professionnel la semaine dernière. Son contrat était encore valable pour une saison. Le Biennois avait rejoint le FC Lucerne en janvier 2014.
Merci beaucoup Jérôme Beuchamp, vous souhaite la belle soirée. Et dans votre menu météo pour ce soir, ambiance orageuse dans les hauteurs et des orages isolés pourraient s'avérer localement forts. Concernant la plaine, ça pourrait déborder durant la nuit, mais ça restera assez limité. Pour demain, nous nous réveillerons sous un ciel couvert. Des averses sont attendues en matinée avant de connaître une légère accalmie. Elles reviendront ensuite en après-midi, plutôt encore une fois sur les reliefs. Dans le Seeland, le soleil sera déjà plus généreux. Concernant les températures, les experts de Météo News annoncent une relative chaleur entre 15 et 18 degrés à l'aube. Pour la seconde partie de journée, le mercure devrait atteindre au mieux 25 degrés dans les vallons du Jura bernois, 27 maximum à Bienne, Moutier et Delémont. Du côté de vendredi, ça sera instable, variant averse et éclaircie.